France Culture.
Ce texte est une découverte et c'est étonnant. C'est effectivement un voyage dans un pays lointain, dans un futur. Et ce qui est intéressant ici, avec un point de vue extérieur et en hauteur, qui invite donc à l'utopie.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On vous propose un voyage énigmatique aujourd'hui dans votre book club avec mots et peintures. En 1760, un certain Charles-François Tiphaine de La Roche fait paraître un drôle de petit livre qui emprunte à la forme du récit de voyage imaginaire, alors très répandu chez les auteurs anglais, allemands et français. Mais l'exploration que campe ici le texte dépasse vite des enjeux géographiques pour épouser des projections sensorielles, technologiques et politiques dans une forme de préscience. Sont décrites en effet le principe de la photographie bien avant son invention, mais aussi un rapport à la terre, aux éléments que ne renieraient pas des penseurs de l'écologie du XXIe siècle comme Bruno Latour ou Achille Mbembe. Autour de notre table aujourd'hui pour parler de ce texte fascinant, le chercheur Yves Citon et le peintre Romain Bernini qui proposent en regard du dit ouvrage une série de toiles exposées en ce moment à la Fondation Henri Cartier-Bresson de Paris. On est ensemble pour une heure entre les siècles et les couleurs. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Yves Citon.
Bonjour Marie.
Vous êtes théoricien de la littérature, chercheur universitaire. Ce texte Gifanti de Charles-François Tiphaine de La Roche, vous le connaissez bien. Vous l'avez plusieurs fois commenté et enseigné. Merci beaucoup d'être avec nous au Book Club.
Merci pour Tiphaine et pour l'invitation.
On est ravis de vous recevoir. Bonjour Romain Bernini.
Bonjour Marie.
Vous êtes peintre. Ce même texte vous a inspiré une série de toiles qu'on peut donc voir exposées en ce moment à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris et qui figurent aussi dans l'édition spéciale de Gifanti proposée par la Maison Atelier EXB et postfacée par Clément Chéroux, qui est le commissaire de l'exposition.
Exactement.
Bienvenue dans le Book Club.
Merci.
On est ravis de vous recevoir. Puisqu'on va parler de ce petit texte, Gifanti, donc, qui reparaît aux éditions Atelier EXB, est-ce que vous voulez bien nous dire, Yves Citon, quand vous l'avez découvert et qu'est-ce que ça vous a fait ?
Alors, moi, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Donc, en tant qu'enseignant de la littérature du XVIIIe siècle, ça faisait un petit peu partie de mon boulot. Et je cherchais un auteur peu connu. Donc, j'adore Diderot, j'adore Rousseau, j'ai fait plein de choses. Je me disais, il y a plein d'auteurs. Et qu'est-ce qui se passerait si on mettait autant d'attention, aussi fine, aussi critique, sur un nobody que ce qu'on fait sur Rousseau, etc. Et par hasard, je suis tombé sur ce Tiphaine. Quelqu'un m'a dit, j'ai vu une conférence, Florence Boulry faisait une conférence, etc. Je me dis, ça a l'air intéressant. Et d'abord, j'ai cru que c'était un canular, ce texte. J'ai cru que c'était quelqu'un qui avait...
De Tiphaine, vous lisez tout de suite Gifanti ?
Ouais, je crois que c'est le premier. Textes. Voilà, ouais, tout à fait. Et d'abord, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a lu Deleuze et qui met Deleuze en fiction, pseudo-fiction du 18e. Donc, je cherche un peu, je vais à la Bibliothèque nationale. Ça a l'air d'être des vrais livres. Et
un
je
vrai
me
monsieur.
Plonge, voilà, et je me plonge dans cette œuvre. Donc, ça fait 20 ans que je suis dedans. J'en suis pas encore sorti avec, voilà, un ravissement de tout instant. Ça doit être la 15e fois que je lis Gifanti. Et à chaque fois, je trouve de nouvelles choses. Et donc, on a fait, il y a quelques personnes qui s'occupaient de ça. Quelqu'un qui s'appelle Jacques Marx, Florence Boulry aussi et quelques autres, donc des spécialistes du XVIIIe siècle. On a édité les œuvres complètes de Tiphaine en deux volumes. La première édition des œuvres complètes avec plein de notes en bas de page, avec plein de choses très très érudites, très universitaires au classique Garnier. J'ai fait un livre de délire sur Tiphaine qui s'appelle Zazirocratie, très curieuse introduction à la biopolitique et à la critique de la croissance. Qui n'a rien à voir avec le 18e
Vous haussez siècle. Les épaules alors que c'est quand même vous qui l'avez écrit.
Ouais, ouais. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué, quelle mouche m'a piqué pour faire ça. Et là, on vient de faire donc une autre édition. Là, on a des éditions illustrées, ouais. Mais une autre édition, Point Seuil, de Gifanti, avec plein d'autres textes de Tiphaine.
Et avec des commentaires aussi au Point Seuil ?
Ouais, avec plein de commentaires, avec plein de délires sur Bruno Latour, sur des choses comme ça. Ouais.
Alors justement, puisqu'on va évoquer aujourd'hui que Gifanti, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, Yves Citon, du reste de sa production littéraire, un peu aussi de sa réception, parce que vous dites un nobody, mais à l'époque c'est pas tout à fait un nobody.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il écrit et comment est-ce qu'il est lu au XVIIIe ?
Tout à fait. Donc, c'est un petit médecin de Normandie, de Montebourg, qui, entre 1749 et 1765, publie à peu près une dizaine d'œuvres complètement hétéroclites. Il y a comme ceci des récits utopiques, il y a un gros traité très sérieux sur la surpêche au XVIIIe siècle, et donc on croit lire un rapport européen sur les filets tirés, les drains, etc. Il publie des propositions pour maître de la vigne en Normandie. Donc voilà, donc il y a des critiques de Locke, donc c'est vraiment tout et n'importe quoi, et à chaque fois on a un ton surprenant qui ne se prend jamais complètement au sérieux, qui se moque de sa propre énonciation, qui se disqualifie, qui est très satirique et qui moi m'a beaucoup intéressé parce que j'ai proposé le terme de alter moderne parce que c'est un critique de la modernité. Il critique Diderot, il critique les matérialistes, il critique les modernes. Moderne chez lui, ça veut dire c'est pas bien. Donc on se dit, bah, si c'est pas un moderne, c'est un anti-moderne. Mais il critique tout autant ce qui est établi en termes de croyances, etc. Et donc je proposais la notion d'alter modernité pour dire qu'il y a quelques auteurs au XVIIIe siècle qu'on n'arrive pas à classer, donc qui n'ont pas vraiment été lus, parce qu'on s'est dit, il critique Diderot, donc c'est un vieux, donc on le bazarde. Et ça, l'ambition, ça serait de les faire relire en se disant, il y a une autre modernité possible qui devient urgente aujourd'hui et qu'on trouve chez des gens comme Tiphaine et quelques autres.
Et on va voir pourquoi ça devient en tout cas urgent, intéressant, produisant des échos avec le contemporain. Romain Bernini, quand est-ce que vous découvrez Gifanti ?
Alors, je l'ai découvert grâce à Clément Chéroux. Au tout début, il y a à peu près 25 ans, je prépare l'agrégation d'art plastique et je suis des cours d'histoire de la photographie. Et un peu en marge de ces cours, Clément Chéroux nous parle d'une potentielle préhistoire de la photographie et évoque Gifanti, que j'ai oublié par la suite.
Et Alain... Évoque avec force d'extrait, par exemple,
ou non, voilà, il existe un ouvrage comme ça. C'est pas le cœur vraiment du concours. Et il y a maintenant un an et demi, Clément Chéroux me contacte et a pensé à faire une exposition pour le bicentenaire de la photographie en commençant par une éventuelle préhistoire de la photographie et me parle de ce Gifanti. Et il y a des évidences d'un seul coup, je comprends pourquoi il a pensé à moi, parce qu'il suivait un petit peu mon travail de peintre sur ce rapport à l'utopie, aux couleurs, au fait d'ouvrir des mondes. Et donc j'accepte évidemment avec un
après avoir lu.
Non, tout de suite, il me l'explique en fait. Il me l'explique et je lui fais confiance. Je le lis et l'évidence devient vraiment une sorte d'éclaircissement. Et d'ailleurs, c'est la première fois que moi je travaille à partir d'un texte.
Oui, j'allais vous demander quelle est la place qu'occupe la littérature éventuelle ou la lecture dans la nourriture du sous-sol de votre peinture.
C'est une place, c'est un à côté qui m'accompagne, mais qui n'est pas un levier à la production, qui va plutôt presque aussi advenir après le tableau, comme une sorte d'enquête. Le tableau est un cheminement et ensuite je vais essayer de chercher parfois, mais presque de façon hasardeuse, des points de contact entre la littérature
et le tableau produit.
Poésie, le tableau produit.
En l'occurrence, là, ça s'est vraiment passé comme une forme de texte qui passe commande à la peinture. Et à partir de votre lecture, vous avez produit une série de tableaux et d'esquisses préparatoires qu'on peut voir à la Fondation Cartier-Bresson.
Exactement.
On écoute un premier extrait pour donner une première idée à nos auditeurs et auditrices. Gifanti, début du texte.
Le soleil n'était pas encore levé lorsque je m'éveillai. J'étais sur un rocher élevé d'où je pouvais découvrir les environs. Je jetai en frémissant un coup d'œil sur cette plage aride et sablonneuse où je croyais devoir trouver mon tombeau. Quelle fut ma surprise quand, du côté nord, j'aperçus une plaine unie, vaste et féconde. Les plantes qui croissent sur le bord de cette plaine sont fort petites. Le terroir ne fournit pas encore assez de sucre, mais à mesure qu'on avance, la végétation se ranime et leur donne plus de volume et de hauteur. Bientôt, on rencontre des arbrisseaux, sous lesquels on peut marcher à couvert, et l'on trouve enfin des arbres aussi anciens que la terre qui s'élèvent leur tête par elles-mêmes jusqu'aux nues. Ainsi se forme un amphithéâtre immense qui se déploie majestueusement aux côtés et aux yeux du voyageur et lui annonce qu'une telle demeure n'est point faite pour des mortels. Tout me parut nouveau dans cette terre inconnue. Tout me jetait dans l'étonnement. Des productions de la nature que mes yeux parcourraient avidement, aucune ne ressemblait à celle qu'on voit partout ailleurs. Arbres, plantes, insectes, reptiles, poissons, oiseaux, tout était d'une conformation extraordinaire, et en même temps élégante et variée à l'infini. Mais ce qui me causait le plus d'admiration, c'est qu'une sensibilité universelle, revêtue de toutes les formes imaginables, vivifiait les corps qui paraissent en être les moins susceptibles. Jusqu'aux plantes, tout donnait des marques de sentiment. J'avançais lentement dans ce séjour enchanté. Une fraîcheur délicieuse tenait mes sens ouverts à la volupté. Une odeur suave coulait dans mon sang. Avec l'air que je respirais, mon cœur tressaillait avec une force inaccoutumée. Et la joie éclairait mon âme dans ses plus sombres profondeurs.
Ce n'est pas exactement le début de Gifanti. Ici, on entend un extrait d'un chapitre qui s'appelle Bellevue, l'occasion peut-être de rappeler la construction de Gifanti en forme de tableau, justement, en tout cas de court chapitre, de vision. On va essayer de savoir exactement ce que c'est. Mais peut-être on va dire un mot du début. Quand on rencontre ce narrateur voyageur, il est au bord du monde, quoi. Il est dans le désert, il est là, il va chercher la limite, là où la nature se refuse le plus pour traverser comme et aller vers un au-delà et atteindre peut-être cette première vision dans le chapitre Bellevue. Est-ce que vous voulez dire un mot, Yves Citon, de ce tout début de Gifanti et du moment où il se comme décide dans un ouragan à l'exploration?
Donc là, on peut très bien rabattre Gifanti sur tout un genre littéraire du XVIIIe siècle qui est le voyage imaginaire, le voyage utopique, etc. Et là, il y a un certain nombre de clichés.
Ça se fait beaucoup.
Voilà, ça se fait beaucoup. C'est un genre comme aujourd'hui la romance, etc. Et donc, il faut partir de notre petit monde et arriver dans un autre monde où tout sera différent. Donc, on retrouve ça facilement. Ici, ce qui me semble intéressant, d'abord, il y a une toute petite notification qui dit que c'est en Afrique. C'est quelque part en Afrique. Et après, ça ne réapparaît pas du tout. Mais moi, j'aurais envie de garder ça en tête parce qu'il y aura une... Alors, ça sera une critique de la France, une critique de Paris sous le nom de Babylone, etc. Mais il y aura une épître aux Européens. Et je trouve se dire que ceci se passe en Afrique, que ça a l'air d'être un désert hostile et qu'en fait il y a cette richesse-là et que c'est une richesse culturelle, que c'est une richesse de mots, d'images, de sensations, c'est tout discret, mais moi, anachroniquement, j'ai envie de refaire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
C'est aussi un moment de l'empire colonial. Enfin, la question coloniale n'est pas absente ni du monde de Tiphaine ni de ce texte-là. Même si, à propos de l'Afrique, j'avoue qu'en relisant un passage tout à l'heure où il disait l'Afrique brûlante, où l'art et ses besoins n'a pas encore pénétré. Bon, voilà, qui était certes de son temps, mais en tout cas une vision tout à fait fausse et éventuellement méprisante. Ferme la parenthèse.
C'est toute la difficulté, l'art et les bonnes questions que pose lecture de textes du XVIIIe siècle, où il y a effectivement des notations racistes, où il y a effectivement des préjugés. Et, à mon avis, donc ça, il faut pas du tout les masquer. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a des choses très, très compliquées. Par exemple, ici, il y a une critique du colonialisme. Très, très clair. Cet épître européen, c'est une critique du colonialisme.
On l'entendra tout à l'heure. Et il dit l'Europe qui a fait du mal aux trois autres parties de la Terre. Voilà, donc, c'est hyper clair.
Et qu'il a fait un autre texte, ce qui s'appelle Les Galigènes, qu'il a plutôt situé du côté de ce qu'on appelle l'Australie, enfin, l'hémisphère sud. Et là, il y a vraiment une critique de la colonisation économique, et de l'extractivisme. Mais est-ce qu'il y a une critique de l'extractivisme? Forcément, le mot extractivisme, il n'existe pas. Donc, c'est nous qui projetons des choses là-dessus. Et donc, juste pour dire ici, donc, il est emporté par un ouragan. On arrive dans un autre monde. Et là, je voulais juste souligner dans ce qu'on a entendu cette importance de la sensibilité, une sorte d'hypersensibilité universelle
voilà, dit-il, ouais.
Qui reviendra à la fin. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Après, il appelle ça l'esprit universel. Et surtout, ça, c'est une constante de Tiphaine, une sorte de continuum entre le minéral, le végétal, et l'animal et l'humain. tout ça, il y a de la sensibilité partout. Et il a fait d'autres textes où il nous dit justement qu'il n'y a pas de différence. En fait, c'est des préjugés de dire qu'il y a des animaux d'un côté, des plantes de l'autre. Tout ça, c'est un peu vivant. Et c'est cette continuité du vivant qui l'intéresse.
Il dit dans ce passage-là des plantes où il y avait marque de sentiment, ce qui est quand même, pour un texte qu'on lit quelques siècles plus tard, extrêmement étonnant. Vous disiez, Romain Bernini, quand Clément Chéroux me contacte et me reparle de Gifanti 25 ans après, je le vis comme une évidence. Mais c'est vrai qu'on pourrait prendre tous les signifiants de ce premier passage et se rapporter à vos 20 ans de peinture.
Exactement.
Et se dire les plantes, les sentiments, même l'idée aussi d'une vision. Il parle d'un paysage qui s'ouvre, d'une terre inconnue et nouvelle. Ça pourrait presque suffire à décrire votre peinture de ces dernières années.
C'est vrai, c'est vrai. Et à la lecture de ce chapitre Bellevue, ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'est pas là face à un colon, face à un découvreur. On est là presque émerveillé devant un enfant. Et donc, il y a une sorte de pudeur et d'accueil, d'ouverture. Et donc, ce narrateur que je vois comme un enfant émerveillé par tout sera d'ailleurs, dans la structure du texte, pris en charge par un préfet qui va lui faire la visite.
De et donc, l'île, et lui dire comment
exactement.
Elle fonctionne, les lois de cette île. Ouais.
Et donc, j'y vois là que c'est pas une passivité, mais j'ai peut-être pas d'autres mots. Cet accueil-là est très important dans le rapport à l'utopie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans une conquête, on est là dans un accueil, une ouverture et la sensibilité, voire parfois l'hypersensibilité à ces mondes, qu'ils soient végétaux, animaux,
on va parler aussi des
voilà.
esprits.
On peut l'avoir que dans l'accueil et non pas dans justement des processus extractivistes ou.
Mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, que dans la prose de Tiffany, on n'est pas du côté de la conquête? C'est une sorte de posture du regard. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est précisément pas la conquête?
Il est déjà en admiration et pour admirer, il faut laisser le temps à l'autre et l'espace à l'autre. Celui qui prend n'admire pas, je pense. Et donc, il faut de l'empathie. Il faut se mettre à la place et essayer de comprendre l'histoire qui nous est contée. Quand on prend, j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir ce type de relation aux choses. C'est pour ça aussi que pour moi, l'art est un endroit important aujourd'hui et qu'il faut le lier avec les sciences, avec l'histoire, c'est qui permet cet accueil-là et ce rebond, cet échange.
Est-ce que vous diriez, Yves Citon, qu'il y a quelque chose dans le dialogue qui s'instaure entre notre voyageur-narrateur qui débarque sur Gifanti et le préfet de l'île qui a à voir avec quoi? Une guidance? Qu'est-ce qu'il donne comme rôle littéraire à ce préfet de l'île?
Alors, de nouveau, dans les standards du voyage utopique, il y a quelqu'un qui connaît, qui explique aux nouveaux venus comment ça fonctionne.
Ouais.
Et c'est très verbal. Il explique ça, et puis voilà. La singularité, il me semble, de Tiffany, c'est que ce personnage, comme vous avez très, très bien décrit, c'est ce voyageur, et on reconnaît la voix de Tiffany qui revient à travers plein d'autres textes, un peu se moque de tout, qui est à distance de tout. Et Tiffany, lorsqu'il écrit, il s'auto-disqualifie constamment. Et c'est pour ça que c'est pas colonial aussi, que ça peut pas être colonial. Il y a jamais de position de maîtrise. Il critique les systèmes, il critique toute prétention de savoir qui s'imposerait. Et il admire, il s'étonne, il note les contradictions, il sourit devant un peu le côté bizarre des sociétés humaines, le côté bizarre de la nature. Hein, c'est vraiment un monde de curiosité. Et lui, c'est la figure du curieux qui s'étonne, qui s'émerveille de curiosité, mais sans juger, sans prétendre contrôler. Et donc, le préfet lui dit des choses. Des fois, il trouve ça très bizarre. Des fois, il est émerveillé par ce qu'il voit. Mais il est toujours avec cette distance qui fait qu'on ne peut pas vraiment le situer, qu'il ne s'engage pas dans quelque chose. Et ça, c'est ce qui rend aussi son texte très difficile, finalement, à saisir. Est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il est pour les lumières, contre les lumières, etc. Il a cette position de recul et de recul amusé.
Et alors justement, peut-être on peut essayer de réfléchir à cette position en parlant de, évidemment, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est son rapport à l'écoute. Il est entraîné par le préfet à une sorte d'appréhension de ce nouveau monde de la terre inconnue par le son, par l'attention portée aux voix et aux sons produits par ce monde nouveau et ce monde inconnu. Donc c'est assez peu habituel, Yves Citon. Et l'autre chose, ce sont ses esprits, ses forces, peut-être qui sont aussi l'une des spécificités de cette terre nouvelle. Est-ce que vous voulez dire un mot de ces deux aspects ?
Ouais, que je vais essayer de lier entre eux, à savoir, donc il y a un moment donné, juste après ce qu'on a lu, où le préfet lui montre ce qu'on appellerait nous une sorte d'objet technique, un globe.
Un globe,
ouais. Et sur ce globe, donc, on lui propose d'avoir un petit appareil qui lui permet d'entendre tout ce qui se passe sur la planète. Donc, plein d'histoires de surveillance, après ça va devenir un miroir, on peut voir tout ce qui se passe sur la planète. Et donc là, il y a le côté que nous, dans le mode de la science-fiction, on se dira « Ah, merveille technologique, etc. etc. » Et qu'est-ce qu'il entend ?
Quoique c'est assez basique, on dirait presque une sorte de stéthoscope de la Terre. On pourrait écouter le corps de la Terre avec... dans les peintures de Romain Bernini, ça devient... une sorte de petit objet qui permet d'écouter le corps, quoi.
Très juste. Et cette simplicité-là, vous avez tout à fait raison de la souligner, c'est très très important. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, et je vais faire le pont avec les esprits, c'est qu'est-ce qu'il entend ? Il entend que les âneries, et là ça fait une dizaine de pages, où c'est toutes les âneries que nous nous disons. Donc il y a à la fois un émerveillement devant Gifanti, devant ces choses-là, et lorsqu'on passe de ça au contenu, eh ben, c'est que des clichés. Et les esprits universels, alors c'est l'interprétation que je propose, c'est qu'on peut les lire comme ce qui passe à travers les médias, par exemple maintenant ce qu'on fait à France Culture, des choses qui circulent entre nous, qui sont vraiment nulle part. C'est dans l'air, si on est dans le hertien, c'est dans des câbles ou de l'électricité, etc. Ça circule entre nous, ça nous met des idées en tête. Mais la plupart du temps, ces idées en tête, on répète. Là, moi, je répète ce qu'a fait Jacques Marx, qui avait étudié Tiphaigne avant moi. On répète des choses et finalement, on peut sourire de tout ce qu'on se dit, parce que 99,999 de cas, c'est des choses qu'on répète,
donc
c'est des clichés.
On revient à sa distance face au discours.
Voilà.
Et en même temps, quand même, il reste émerveillé par ces esprits qu'on lui présente, parce que ça, c'est peu commun, ça fait pas partie du monde qu'il connaît. Il y a toujours l'idée d'un monde inconnu dans ce texte.
Tout à fait. Et lui, avec tous ces clichés, il se trouve faire un texte assez extraordinaire et assez unique.
Alors, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, puisqu'on a assez peu parlé de la forme avant qu'on rentre dans plus de détails encore, Yves Citon. On a dit construction par court chapitre, qui peuvent évoquer, on y viendra, des tableaux. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécifique ?
Alors, ce que vous disiez aussi, c'est la présence des voix. Que c'est plein de citations, en fait, c'est une visite d'une île, mais sur cette île, c'est une île de discours. Et il y a donc de la philosophie classique, il y a des romans, il y a de l'histoire, il y a tout ceci qui revient. Et on pourrait commencer à faire le travail, on n'a pas fait le travail systématiquement, quoique dans les œuvres complètes, c'est un petit peu fait, de se dire où est-ce qu'il copie, où est-ce qu'il imite. Donc là, à l'époque, c'était très très classique de reprendre quelque chose, le réécrire un petit peu. Et donc après, dans les notes de bas de page d'édition complète, vous pouvez voir à quel point
il pastiche
discours. Il pastiche, il reprend, et c'est pas un problème. Mais ce montage lui-même est absolument original de par la position, justement, d'autodisqualification, de par cette écoute de voix et de par ces fulgurances. Alors, de nous faire voir la photographie, de nous faire voir la surveillance généralisée, de nous faire voir la computation. Enfin, il y a plein de choses que moi, forcément, je projette sur le texte. Mais si on extrait deux ou trois extraits, ça décrit exactement ce que nous, on connaît comme très différent de ce qui se passait en 1860. On verra peut-être la photo tout à l'heure.
Oui, est-ce que Clément Chéroux appelle le démon des origines et auquel on cède, parce que c'est vrai que c'est tentant d'y voir la préscience. Simplement, peut-être avant qu'on fasse une petite pause musicale, mais je reviens à cette histoire de son et à la manière dont vous traitez la couleur dans beaucoup de vos tableaux, Romain Bernini, où ça vibre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net et immobile dans les couleurs que vous travaillez, mais il y a de la vibration. On pourrait presque dire que, j'avais jamais pensé à ça, mais il y a presque du son dans votre peinture. Est-ce que ça vous parle ?
Tout à fait. Vraiment, ça me parle parce que je cherche des accords colorés qui soient la limite de l'acceptable entre le beau et du désaccord. Pour moi, on est dans une société d'émetteurs, avec de moins en moins de récepteurs. On est dans une société, ce que dit aussi Gifanti, et c'est-à-dire qu'il est obligé de s'extraire du monde et de Babylone pour, depuis Gifanti, écouter Babylone au calme, on va dire. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le bruit de Babylone. Et ma peinture, du moins je tente, essaye de dire aussi ce Larsen-là. Le Larsen, c'est simplement quand l'émetteur est trop près du récepteur, il n'y a plus de distance possible, et donc il y a un bruit parasite qui se crée. Nicolas Bourriaud en parle très bien dans La Planète B. Et donc il y a un bruit parasite. Et je pense que ma peinture peut naviguer entre cette tentative de beauté à la limite, et dire le bruit du monde, c'est trop peu de distance, trop peu de calme. Ce pourquoi aussi, moi, je considère le travail de peintre comme un lieu d'intensité et de suspens, et sur le temps long. Sur le temps long au moment de le faire, et sur le temps long au moment de le
vivre,
donner au
ouais.
monde avec 30 ou 40 000 ans d'histoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Si, si, plus que ce qu'on rêvait. On va aller de l'autre côté de la Lune avec Arthur H. Et ensuite, on continue de parler de Gifanti, de ce fameux Tiphaine.
Marie Richeux.
Un petit livre mystérieux, publié au beau milieu du XVIIIe siècle, inspire nos rêveries aujourd'hui dans votre book club. Gifanti, c'est le nom d'une île imaginaire et le titre de ce texte original qui, en cherchant, je cite, « quelques cantons fertiles ignorés du reste de la Terre », envisage un nouveau rapport avec elle. Récit de voyage fantasmagorique, spéculation sensible et scientifique, le petit livre raconte l'exploration, après un ouragan, d'un monde nouveau par un narrateur, voyageur, nouveau lui aussi. C'est un texte qui vous a inspiré des toiles de peinture, Romain Bernini, qui vous a inspiré plusieurs commentaires littéraires, Yves Citon. On continue donc d'en parler avec un nouvel extrait, celui où peut-être on entend ce que vous décriviez l'un et l'autre, et où on cède aux démons des origines, pour reprendre le nom de Clément Chéroux, commissaire de l'exposition et directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson, on peut voir vos peintures, et où on entend peut-être une sorte de prescience de l'apparition de la photographie.
Les esprits élémentaires ne sont pas si habiles peintres qu'adroits physiciens. Tu vas en juger par leur manière d'opérer. Tu sais que les rayons de lumière, réfléchis de différents corps, font tableau et peignent ces corps sur toutes les surfaces polies, sur la rétine de l'œil, par exemple, sur l'eau, sur les glaces. Les esprits élémentaires ont cherché à fixer ces images passagères. Ils ont composé une matière très subtile, très visqueuse et très prompte à se dessécher et à se durcir, au moyen de laquelle un tableau est fait en un clin d'œil. Ils enduisent de cette matière une pièce de toile et la présentent aux objets qu'ils veulent peindre. Le premier effet de la toile est celui du miroir. On y voit tous les corps, voisins et éloignés, dont la lumière peut apporter l'image. Mais ce qu'une glace ne saurait faire, la toile, au moyen de son enduit visqueux, retient les simulacres. Le miroir vous rend fidèlement les objets, mais n'en garde aucun. Nos toiles ne les rendent pas moins fidèlement et les gardent tous. Cette impression des images est l'affaire du premier instant où la toile les reçoit. On l'ôte sur le champ, on la place dans un endroit obscur. Une heure après, l'enduit est desséché et vous avez un tableau d'autant plus précieux qu'aucun art ne peut en imiter la vérité et que le temps ne peut en aucune manière l'endommager. la précision du dessin, la vérité de l'expression, les touches plus ou moins fortes, la gradation des nuances, les règles de la perspective. Nous abandonnons tout cela à la nature qui, avec cette marche sûre qui jamais ne se démentit, trace sur nos toiles des images qui en imposent aux yeux et qui font douter à la raison si ce qu'on appelle réalité ne sont pas d'autres espèces de fantômes qui en imposent aux yeux, à l'ouïe, au toucher, à tous les sens à la fois. L'esprit élémentaire entra ensuite dans quelques détails physiques. Premièrement, sur la nature du corps gluant qui intercepte et garde les rayons de la lumière. Secondement, sur les difficultés de le préparer et de l'employer. Troisièmement, sur le jeu de la lumière et de ce corps desséché. Trois problèmes que je propose aux physiciens de nos jours et que j'abandonne à leur sagacité. Cependant, je ne pouvais détourner les yeux du dessus du tableau. Un spectateur sensible qui, du rivage, contemple une mer que l'orage bouleverse, ne ressent point des impressions plus vives. De telles images valent les choses. Le préfet interrompit mon extase. « C'est trop arrêté, me dit-il, à cette tempête, par laquelle les esprits élémentaires ont voulu représenter allégoriquement l'agitation du monde et le cours orageux de la fortune des hommes. Voici de quoi nourrir ta curiosité et redoubler ton admiration. »
Un spectateur sensible qui, du rivage, contemple une mer que l'orage bouleverse, ne ressent point des impressions plus vives. De telles images valent les choses. De telles images valent les choses. C'est un nouvel extrait de ce texte qu'on commente aujourd'hui, Gifanti, le chapitre « La tempête ». De telles images valent les choses pour peut-être évoquer cette dimension de préhistoire de la photographie, de préscience, de Tiffaigne, de techniques qui vont advenir. Est-ce que c'est forcer le texte, Yves Citon, que d'aller dans cette direction-là?
Oui,
s'amuser avec, ouais.
C'est forcé, parce que nous, on a la photographie en tête, que lui n'avait pas en tête, même si des collègues ont montré qu'il n'est pas aussi original que ça, parce qu'il y a quelques textes à cette époque-là qui, en effet, décrivent un procédé qui
ressemble... 1760.
1760, voilà. Là, je crois que c'est une des descriptions les plus frappantes. Peut-être juste pour contextualiser ce qui se passe ici, avant, dans le texte, on a beaucoup parlé de simulacre, et c'est le simulacre qui remonte au De rerum natura, de Lucrèce, etc. Mais on a vraiment eu une réflexion sur la surface des choses qui prennent une sorte d'existence propre qui nous trompent. Et là, au cœur de cette première description ou anticipation de la photographie, on a quand même cette phrase, on parle d'images qui en imposent aux yeux et qui font douter à la raison si ce qu'on appelle réalité ne sont pas d'autres espèces de fantômes. Et donc là, on est déjà dans Baudrillard. Là, c'est forcément forcer le texte, ouais. Mais c'est ça, on est dans un monde de simulacre, on a quelque chose qui remplace nos amis peintres par des appareils, c'est des physiciens, donc c'est de l'appareil physique, et qu'est-ce que ça fait? Ça bouleverse notre réalité. Il y a plein de choses qu'on dit aujourd'hui sur l'IA, où en un clin d'œil, on peut écrire des textes, en un clin d'œil, il n'y a plus de travail, ça va mettre tous les peintres, tous les discoureurs à la porte. Et c'est déjà ce fantasme-là que forcément on force, parce que nous on regarde ça deux siècles plus tard, mais qui de fait est là. C'est dans le texte quand même, cette confusion entre simulacre et réalité et ce jeu sur les surfaces. Et là, je crois que Romain a fait un travail absolument extraordinaire sur cette peinture des surfaces dont on se demande, quand on voit les personnages, quand on voit le voyageur en Gifanti, il y a des effets de surface sur le voyageur, il y a des effets de surface sur les visages, et tout est surface, dans la façon dont je vois la peinture de Romain, où tout est tâche aussi, parce que je m'arrête là, mais quand il parle des esprits, la première apparition des esprits, il dit que ce sont comme des taches. Et me semble-t-il, je ne comprends pas la technique de la peinture, mais il me semble qu'il y a quelque chose dans la matérialité de ce que fait Romain qui correspond absolument à ceci.
Romain Bernini, en effet, ce passage-là, cet extrait du chapitre La Tempête, qui est d'ailleurs un extrait sur lequel vous zoomez en peinture au début de l'exposition, où vous reprenez même l'un des manuscrits de Gifanti. Et en effet, vous dites l'intuition initiale de Clément Chéroux, c'est d'aller chercher pour une exposition ou pour un temps consacré au bicentenaire de la naissance de la photographie une préscience de celle-ci. Qu'est-ce qui vous a intéressé tous les deux dans le dialogue avec le texte? Je sais pas, qu'est-ce que vous êtes allés aussi chercher du côté de ces effets fait de apparition. Il y a aussi beaucoup ce mot-là, hein, apparition, surface, matière.
Alors, pour moi, c'est un texte à la fois visionnaire, mais qui propose des visions, qui ouvre des brèches. Et j'ai perçu Gifanti, et notamment son, l'écriture de Tiphaine, comme quelqu'un qui tâtonnait, vraiment qui avait une pratique artistique, qui parfois s'embranchait quelque part, puis revenait, se plantait complètement, était dans une impasse, puis à un moment, il y avait un moment de grâce, où là, il explique, par exemple, ce processus de la photo, qui est quand même, j'y reviens un peu, parce qu'il est assez troublant, parce que il y a le rapport à l'immédiateté de la prise de vue, ce qui, à cette époque-là, n'est pas pensé, puisqu'on peint dans le temps. Il y a le fait d'aller s'isoler dans l'obscurité pour révéler, exactement, pour développer l'image. Il y a l'ennui visqueux qui rend sensible la plaque. Et donc, il y a une concordance quand même multiple des procédés de la photo. Je ne sais pas dans quelle mesure il l'avait expérimenté. Voilà. Mais pour moi, il travaille comme un artiste. C'est-à-dire qu'il chemine. Il
dans
trouve,
ses visions, vous voulez dire.
Dans ses visions et dans son écriture aussi, par différents chapitres. Il y a, je dois le dire, il y a certains chapitres pour lesquels j'avais aucune image qui me venait. Il y avait un rapport, enfin, vous me direz, Yves Citon, presque moraliste, moralisateur, donneur de leçons, et juste après, une sorte d'émerveillement,
explosion
de prescience, ouais. Et j'y ai vu vraiment la façon de travailler. De l'artiste, toi, qui pense avec la main, et donc là j'imagine qu'il pensait avec la plume, et on avance comme ça, et on accumule, on efface, on...
Et avec des apparitions et des visions fortes, on n'a pas parlé des arbres magiques, alors que voilà. Les arbres sont très importants dans votre peinture, dans votre peinture, Romain Bernini, et que à partir de ces arbres-là, il y a même les feuilles sont même des propositions de vision en tant que telles. On entendait aussi tout à l'heure ces plantes du monde nouveau qui ont des marques de sentiments. Est-ce que vous voulez dire un mot, puisque les arbres ont une place importante et dans votre peinture et dans la série que vous proposez là sur ces visions-là, ces visions végétales?
Alors, précisément, je les ai vus comme la configuration d'une utopie, donc d'un lieu qui n'existe pas. Moi, les arbres, tels que je les pense et que je les réalise, ont des couleurs non naturelles, bleu, rose, etc. Et je les considère presque comme des personnes. Donc, j'ai presque une vision animiste de ces figures-là. Et je l'ai perçu dans Gifanti, où ces esprits élémentaires circulent partout. À un moment, ils vont aussi, donc ils sont depuis les arbres, dans les feuilles, puis après ça va se partir dans l'air et venir sur les pores de la peau des humains. Et c'est comme ça que la connaissance arrive. Et donc ce qui m'a vraiment frappé, c'est là où je pensais parler d'animisme, c'est que ici c'est l'humain qui est fertile. Et qui est fertilisé par la nature. Et donc, on a une inversion des rapports de force. C'est grâce à la nature que l'humain devient, progresse, acquiert le savoir, la connaissance, la sensibilité, et non pas l'inverse. Donc là, l'humain ne travaille pas la terre, il est travaillé par elle. Et donc ça m'intéressait vraiment.
Il y a vraiment justement ici ce qu'on disait, une forme de une possibilité de faire rejoindre ce texte-là de 1760 avec des penseurs du vivant très contemporain. On pense à Bruno Latour, on pense à Achille Mbembe qui dit voilà, la Terre appelle une réponse. On va écouter une archive de Bruno Latour parler du rapport humain-non-humain et juste après un nouvel extrait de Gifanti.
Ce que disent les géologues, c'est que les humains sont devenus une force géologique à elle toute seule qui pèse en quelque sorte tellement que c'est le signal, enfin le point fort, la particularité de cette période. Ils sont entrés dans une histoire naturelle, en fait. C'est ça l'étrangeté. Autrefois, la nature était supposée être indifférente aux humains. Tandis qu'elle est au contraire très sensible apparemment aux humains. Du moins la Terre, pas la nature en général, mais la Terre, ce petit local très particulier dans lequel nous apprenons que, désormais que nous vivons, semble assez sensible à l'influence des humains, curieusement. Donc, beaucoup de poésie sur le caractère indéfiniment éternel de la nature vont devoir être quelque peu modifiées, comme chacun le sent fort bien. Donc, l'idée d'une d'une nature toujours présente, qui est indifférente à nos maux. Non, elle semble assez sensible à nos transformations et à notre influence. Et on est un peu perdu, parce que c'est pas le rapport qu'on avait autrefois avec les non-humains. Ça dépend comment on entend autrefois. Si on remonte tout à fait loin dans le passé, bien sûr.
Ne t'imagine pas que la nature se repose en aucun lieu de la Terre. Elle travaille avec effort dans les espaces même infiniment petits, où l'œil ne saurait atteindre. À Gifanti, elle arrange la matière sur des plans extraordinaires et tend sans cesse à donner du neuf. Partout ailleurs, elle repasse incessamment sur les mêmes traces et se répète sans fin, mais toujours en s'efforçant de porter ses ouvrages à un point de perfection où elle n'arrive jamais. Ces fleurs qui vous frappent si agréablement la vue, elle tend encore à les rendre plus éclatantes. Ces animaux qui vous semblent si adroits, elle tend encore à les rendre plus industrieux. L'homme, enfin, qui vous semble si fort au-dessus du reste, elle tend encore à le rendre plus parfait. Et c'est à quoi elle réussit le moins. On dirait en effet que le genre humain fait tout ce qui dépend de lui pour rester bien en dessous du degré où la nature veut l'élever. Et les plus heureuses dispositions qu'elle lui donne pour le bien, il ne manque presque jamais de les retourner au mal.
C'est assez savoureux, bien sûr, qu'on peut dire qu'on tord les textes ou qu'on force les textes, mais donc ce texte de 1760 qui côtoie la voix du regretté Bruno Latour, constatant la transformation de notre vision, de la sensibilité de la Terre à la présence humaine, à notre activité humaine, la question de l'interdépendance avec le vivant. Yves Citon, comment est-ce que Gifanti, on l'entend ici dans l'extrait lu par Cyril Marchand, en fait aussi son miel de cette interdépendance, de ces forces qui circulent?
Alors peut-être rebondir sur ce que disait très juste Romain tout à l'heure sur le côté moraliste. C'est vrai que quand on lit le texte, il y a un certain nombre de pages qui nous tombent un peu des mains parce que c'est le côté anti-lumière, le côté critique de la modernité, c'était mieux avant, etc. Et moi je mets ça du côté de la satire, à savoir que c'est un texte qui est critique du contemporain, critique des injustices, critique du monde dans lequel il vit. Et là, il a l'air très conservateur. Et ça m'intéresse de faire le lien entre le conservateur et la conservation, parce qu'il y a aussi quelque chose dans l'écologie et dans un certain souci de la nature qui est une conservation conservatrice, etc. On ne sait pas très bien où la situer politiquement. Et donc là, la vie du texte, que disait très très bien Romain aussi, cette espèce d'écriture tâtonnante de Tiphaine, c'est une sensibilité tous azimuts de lui à tout ce qui l'entoure ou tout ce dont il rêve, parce que souvent il dit qu'il décrit un rêve, qui se projette sur un monde, alors la Terre, la nature, mais Gaïa. Donc on ne parlait pas de Gaïa à l'époque. Hein, c'est Bruno Latour qui a beaucoup parlé de Gaïa. Il se trouve que Gifanti, c'est Gaïa Fanein. Et donc on a beaucoup lu le titre de Gifanti comme anagramme de Tiphaine, ce qui est vrai, ça marche très bien. Mais dès l'époque, une traduction allemande traduit le texte par l'apparition de la Terre. Erderscheinung, ou quelque chose comme ça. Et l'idée, c'est qu'on peut voir dans le titre même du livre les Fanein, donc les surfaces, l'apparition, etc., une sorte de phénoménologie de la nature. Et la nature, c'est Gaïa. Et donc là, le texte qu'on a lu et la résonance avec Latour, forcément, fonctionnait très bien, parce que c'est une constante de Tiphaine, et c'est ce qui fait son originalité, de voir de la vie partout et de voir ce continuum de la sensibilité partout, y compris dans des formes de paroles qui sont des clichés, y compris dans des formes de ravissement d'une scène de quelque part dans un désert.
Et on a commencé par dire, Yves Citon, qu'il empruntait au code des voyages imaginaires qui se faisaient beaucoup au XVIIIe siècle. Est-ce que c'est pour autant plus original?
Il me semble que si moi je devais mettre une originalité quelque part, ça serait justement dans cette pensée du vivant, dans cette pensée, je dirais, de l'animé. Plus encore que le vivant, c'est l'animé. Et de nouveau, Romain a tout à fait trouvé le bon terme, animisme ou animé. Et là, forcément, de l'animé, on se dit, bah tiens, c'est des animaux. Donc, ils bougent tout seuls, ils sont animés, ils ont une anima, une âme. Ces esprits élémentaires, c'est aussi une forme d'âme. Et à la fin, il y aura un texte métaphysique incroyablement complexe, qui s'appelle le système, et qui nous dit en gros que c'est pas qu'il y a un corps et un esprit. Il y a des corps, la matière, il appelle ça. Il y a ce qu'il appelle ces esprits universels, qui sont des discours, des choses qui flottent entre nous. Et puis, il y a ce qu'il appelle l'âme raisonnable. Et l'âme raisonnable, c'est dans les corps, mais vraiment incarnés, nous avons, moi je traduis ça comme ça, une vision singulière du monde. Et cette vision singulière du monde, chez les humains, elle peut se poser des problèmes de cause et d'effet, elle peut être raisonnable avec une certaine rationalité. Et notre monde, il est fait de corps qui, quand ils s'isolent, peuvent être un peu raisonnables, de flux qui nous traversent, des flux d'images, des flux de surface, des choses qui apparaissent, et de la matière. Et là, il propose une métaphysique très discrète, mais très très bien construite, qui, à mon avis, est une des choses les plus riches du XVIIIe siècle, et donc qui théorise, en quelque sorte, cette vitalité omniprésente, cette animation ubiquitaire qui décrit tous les mondes dans lesquels il nous plonge.
D'ailleurs, vitalité et animation, il en passe par une description du sentiment amoureux ou des forces d'amour. Il réserve un sort assez peu glorieux à une figure féminine qui s'appelle Sophie. Mais en tout cas, il y a une question d'amour qui est aussi intéressante parce qu'elle participe à la circulation des énergies que décrit Tiffany. On va écouter Marie, auditrice du Book Club. Elle vous interroge, Romain Bernini, sur peut-être ce que l'on a dit du caractère utopique de ce voyage imaginaire et des visions que vous-même vous proposez dans votre peinture.
Bonjour le Book Club. Bonjour Romain Bernini. Ce texte est une découverte et c'est étonnant. C'est effectivement un voyage dans un pays lointain, dans un futur. Et ce qui est intéressant ici, avec un point de vue extérieur et en hauteur, qui invite donc à l'utopie. Ce que je trouve passionnant en regardant vos images, c'est qu'il me semble qu'il y a un renversement de ce point de vue. On rentre dans les images, on est invité en quelque sorte à suivre ces personnages souvent de dos. Est-ce que pour vous, finalement, c'est une façon de dire il n'y a plus d'utopie possible dans le monde ? Ensuite, il y a une dernière chose. Il y a cette citation « Je ne savais à chaque instant si ce que je voyais par quelques-unes des croisées n'était pas une peinture ou si ce que j'apercevais dans quelqu'un des tableaux n'était pas une réalité. » J'aurais aimé que vous exprimiez un petit peu sur cette remarque de l'auteur. Je vous en remercie.
Eh bien, merci beaucoup Marie pour cette lecture attentive et aussi pour l'évocation des peintures de Romain Bernini. Je précise que dans l'édition réédition de Gifanti aux éditions d'Atelier UXB, il y a vos peintures qui figurent et qui sont entre les chapitres qu'on a décrits. Alors on vous écoute Romain Bernini sur ces deux questions-là, les personnages de dos et la fin de l'utopie et l'idée encore de surface, peinture, réalité soulevée par Marie.
Dans la figure de dos, moi, alors évidemment, c'est une posture utilisée par les romantiques, peut-être usée à Friedrich, ouais.
Devant la mer de nuages.
Exactement. Ce qui m'intéresse moi dans cette figure-là, c'est qu'il y a une communauté de regard avec le spectateur, c'est-à-dire que et la figure représentée et le spectateur regardent dans la même direction. Et donc, il y a un décalage de l'empathie qui ne passe plus par le visage et par deux paires d'yeux qui se regardent, deux visages, qui se regardent, mais par, cette communauté de regard vers un lointain, vers un paysage, vers autre chose. Et donc, là, l'empathie passerait par le regard.
Et davantage sur le paysage.
Donc c'est à la fois une invitation à rentrer dans un tableau, c'est aussi, un moyen un peu technique, pictural, de mettre une image dans l'image, c'est-à-dire, d'inviter aussi le spectateur à rentrer dedans.
C'est plus une participation à l'utopie qu'une fin de l'utopie, pour répondre à Marie.
Oui, pour moi, précisément, j'envisage la peinture comme des portes ouvertes vers des possibilités et vers des utopies. On y va ou on n'y va pas. On passe du temps devant un tableau où on
fait un petit clin d'œil, une petite apparition.
Et c'est à nous de décider le temps passé à démêler cette archéologie de la main du peintre. Et là-dessus, pour moi, c'est vraiment des utopies proposées, mais pas imposées. Et c'était cette idée-là aussi dans mon travail de peinture autour du texte de Gifanti. C'était de tenter de pas être dans l'illustration, parce que c'est un... Ça, c'est pour moi un danger. Bacon le disait notamment, c'était vraiment le danger de la peinture. Alors je ne sais pas si j'ai évité les dangers, mais de proposer des accompagnements, des échos qui soient à la fois contemporains, parfois lointains, mais qui puissent montrer à quel point Gifanti est aussi un outil. Et propose un outillage à penser, à voir le monde d'aujourd'hui. C'était ça l'idée.
Mais peut-être que le mot écho est intéressant, prononcé par Romain Bernini pour répondre à Marie sur la question de la surface, la peinture et la réalité. Il y a un jeu de vibration, en fait, dans le texte de Tiffaine.
Oui, tout à fait. Et il y a cette multiplication de couches qu'on voit très bien, multiplication de tâches, cette indistinction entre ce qui est des tâches, ce qui est des êtres, ce qui est des corps, ce qui est des esprits. Et ça, moi, je le vois vraiment dans la peinture, avec aussi cette idée d'utopie. Quand on pense, nous pensons utopie, nous pensons un endroit autre où tout est parfait. Ici, c'est plutôt, donc, e-utopie, hein, le bon lieu. Ici, c'est plutôt le lieu de nulle part. Et il me semble que la peinture de Romain arrive très bien à nous montrer ce jeu de surface qui a une sorte de topologie des surfaces dans lesquelles il n'y a que des surfaces. Il n'y a pas une surface, quelque chose, puis après derrière, il y a des formes dont on peut se dire, tiens, ça c'est peut-être un esprit, mais on voit à travers. Il y a des fonds, mais les fonds, ils sont un peu délavés, donc on se dit qu'on voit à travers. Et on est pris dans ces topologies de surfaces un peu déroutantes, qui pour moi correspond très très bien à la façon dont on est dérouté chez Tiffaigne, avec aussi ce refus ou cette critique de l'utopie. Il a écrit un autre texte qui s'appelle Les Galigènes, où il montre la fin d'une utopie, à savoir que c'est une utopie communiste, mais lui, comment au moment où c'est communiste, et ils vont remettre du marché, et ça va s'effondrer. Et c'est déjà une sorte d'utopie, enfin, de critique néolibérale, critique de néolibéralisme, en montrant que le néolibéralisme n'est pas mieux que le communisme. Il fait ça en 1765. C'est juste hallucinant.
Et on a évoqué aussi cet épître aux Européens, et éventuellement la critique qu'il ferait de l'élan colonial. On va écouter un dernier extrait de Gifanti.
Peuple puissant d'Europe, peuple poli, ingénieux, savant, guerrier, fait pour commander aux autres, peuple les plus accomplis de la terre. Les temps sont arrivés. Vos vues profondes sur le bonheur des hommes ont fructifié. Vous jouissez enfin, et je vous en félicite. Dans l'enfance de la nature, ces siècles grossiers où les hommes, errant dans les campagnes, se nourrissaient des fruits que la terre leur prodiguait, une parfaite sécurité, des plaisirs aisés, une paix profonde, ou plutôt une langueur mortelle, tenaient dans l'engourdissement toutes les facultés de l'âme. Mais dès que les douceurs de la propriété eurent flatté le cœur humain, dès que chacun eut enclos un champ en disant « ceci est à moi », dès lors, tout se mit en action. On eut trop d'une chose, trop peu d'une autre. On donna le superflu pour ce qui manquait, et le commerce s'établit. Il se fit d'abord de proche en proche, ensuite d'un pays à un autre, et enfin de l'une des quatre parties du monde aux trois autres. Pour favoriser la population, étendez de plus en plus le commerce, établissez les manufactures, introduisez des arts de toutes espèces, et pour consommer les superfluités, appelez le luxe. Que vos fastes conservent précieusement les noms de ceux qui vous ont ouvert cette voie admirable. Ne regrettons point ces temps féconds en guerriers où, de tous côtés, des héros campagnards, chacun à la tête de 200 ou 300 vassaux, se harcelaient sans fin. Les germes de dissension qu'on n'en trouvait plus assez fréquemment dans vos climats, on a été les chercher aux extrémités de la terre. Et du sein des deux Indes, le commerce vous apporte de nouvelles semences de haine, de discorde et de guerre.
Du très lointain, vous rapportez des nouvelles semences de discorde et de guerre. On a peu de temps pour analyser ce petit passage épître des Européens. Il fait partie peut-être des moments qui sont, on va dire, moins oniriques, moins du côté de la description de cette terre inconnue, de ces plantes aux marques de sentiments, mais qui sont importants dans Gifanti de Tiffaigne. Qu'est-ce qu'il y fait là? Qu'est-ce qu'il y fabrique? En écoutant la lecture de Cyril, je me notais quand même médecin normand. Vous avez commencé par dire c'est un petit médecin normand, mais qui regarde au loin quand même.
fait. Bah, ça s'appelle Gaia Fanein. Hein. C'est une vue de la Terre. C'est comment la Terre nous apparaît. Et justement, ce passage, me semble-t-il, va très bien parce qu'on peut le lire de plein de façons. On peut dire, ah bah tiens, c'est une critique du colonialisme. Bravo. Rousseau faisait ça, Diderot faisait ça. Donc, c'est un contemporain de ces gens-là. Et en même temps, vous nous dites, oui, mais on regarde d'autres passages où il véhicule des clichés sur l'Afrique, il n'y a pas d'histoire, la Sarkozy, etc. etc. Et c'est pour ça, c'est moi, le mot que j'ai envie de prendre ici, c'est insituable. À savoir que...
Le texte en lui-même, il l'est comme ça, vous diriez?
Ou le positionnement de celui qui parle, et donc notre positionnement à lui, est-ce qu'on peut dire il a raison, il a tort, c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre, est-ce qu'il est moderne, anti-moderne? Et là, il me semble qu'on le sent très bien, on peut très bien adhérer à une critique de la modernité qui est plus vigoureuse que jamais. Moi, si je parle d'altermodernité, c'est justement pour dire ça, une critique moderne de la modernité. Et en même temps, il fait tout pour qu'on se demande, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est un cliché de plus? Finalement, le décolonialisme, ça peut se prendre comme un cliché de plus. Et c'est toujours à nous de nous dire... Oui, on vit dans un monde de clichés, on est immergé là-dedans, c'est une topologie de surface, il faut quand même s'accrocher à quelque chose, mais c'est à nous de faire le boulot. Et lui nous donne des images et c'est à nous de faire le boulot.
Et est-ce qu'en cela, on peut parler de voyage initiatique au sens où il nous donne, tout à l'heure, Romain Bernini disait le voyageur explorateur, c'est une figure d'enfant. Est-ce qu'il nous demande de réfléchir, Yves Citon? Est-ce que Gifanti nous demande de réfléchir?
Je dirais non, je dirais, en tout cas, la façon dont il le présente, il nous propose de rêver.
Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Exactement.
Romain Bernini.
J'adhère complètement à cette vision-là. Et pour moi, c'est un texte à la fois poétique, politique et poétique, dans le sens où il permet de nous construire davantage. Et quand Tiffaine évoque le luxe, je me suis beaucoup posé la question de ce luxe qu'il évoque. Et pour moi, ça serait finalement le calme, l'émerveillement et la beauté, ce que m'enseigne ce livre.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a parlé du son, très présent dans ce texte Gifanti de Tiffaine Delaroche. Ici, le Book Club se termine toujours par le grand jeu des pages musicales. On propose à nos auditeurs et auditrices de chercher des évocations musicales dans les textes qu'ils, elles, lisent et de nous les envoyer par le mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram. C'est Martin qui joue avec nous aujourd'hui. Il nous propose un extrait d'un texte qui s'appelle « L'Odyssée de Sven » de Nathaniel Jan Miller, paru en français en 2022 chez Bûcher Chastel. Dans la traduction de Mona de Pracontal. Au début, quand ma cintre me passait de la musique sur son vitrola, je ne l'entendais que de façon superficielle, comme on mangerait un filet de cabillaud fadas parce que c'est l'heure de manger. Mon cerveau n'avait pas été formé à écouter. Il continua de passer ses petits cylindres. Pendant de nombreuses semaines, j'écoutais sans entendre. Et puis, un jour, sans avertissement, j'entendis la musique. L'entendis véritablement, pour la première fois. Et rien qu'un simulacre de musique, pitoyable et métallique, fourré dans un cornet en cuivre, gravé sur de la cire, pressé dans du métal, puis recraché. Emporté par cette euphorie mineure, je perdis toute honte et demandai « Qu'est-ce que c'est ?» Ma ceinture releva les yeux de son livre, surpris par l'urgence dans ma voix. « C'est Dvorak. » Je fronçai les sourcils en entendant ce nom inconnu. Ma ceinture se leva et alla examiner l'étiquette imprimée sur l'étui du cylindre. « Anton Dvorak, quintette pour pianos et cordes, en la majeure, opus 81. » Et si je me trompe, le mouvement qui t'a frappé, mon cher ami, c'est le deuxième, la Dumka. Je n'écoutais qu'à moitié, fascinée que j'étais par le jeu et les flux et reflux funestes des violons. Le son du chagrin, ou du moins d'une profonde mélancolie, fendant le temps et l'espace sans rencontrer d'obstacles, me transportait. Merci beaucoup Yves Citon d'avoir été avec nous pour évoquer Gifanti de Charles Tiffaine, On remettra, vous êtes venu avec plein de livres, vous l'évoquez avec d'autres chercheurs et chercheuses, on mettra évidemment la bibliographie, en plus de la réédition avec vos peintures, Romain Bernini, à l'atelier EXB. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'exposition se voit à la Fondation Henri Cartier-Bresson de Paris jusqu'au...
Tout début mai.
Au son, c'était Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Cyril Marchand, Marianne Chassor, Luque Vauvillier, Mathilde Wagman, Julie Gastal et Alexandra Laïbegovic, avec qui vous poursuivez la conversation sur le compte Instagram du Book Club.